Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
En direct jusqu'à midi, les grandes gueules du sport. David Douillet, Walid Acherchour, Pierre-Ambroise Boss et Simon Dutin. Bonnes vacances si vous en avez. Bon courage si vous travaillez et si vous vous réveillez seulement maintenant. Déjà, vous avez de la chance. Et vous pouvez retrouver le podcast dès maintenant. On a parlé de l'entrée en lice réussie de l'OM en Ligue 1. On a parlé de l'athlétisme, flop des Jeux Olympiques. Très intéressant débat à retrouver en podcast dès maintenant. Dans un instant, il y aura le fameux débat caché, qui est caché, comme vous le savez. Et puis à 11h45, les grandes gueules contre-attaquent. Vous pouvez aller voter encore hein, sur le compte X des GG du sport. Le résultat, ça sera à 11h45. On va faire le point sur vos votes avec, pour l'instant, un Walid Acherchour en grande forme. Il est dernier, 7% pour son débat sur mon fils.
Oh, ça intéresse personne. Personne
veut
voir mon fils
jusqu'à 40 ans.
Personne veut voir mon fils continuer.
7%. C'est pas fini, mais.
Après, peut-être que je l'ai pas.
Tu pars de loin.
Je pense que c'est.
Ouais. C'est peut-être ta façon ça de vendre.
Ouais. Bah, moi, on m'a dit qu'il faut être concis, donc.
Mais c'est par débat. Tout le monde veut le voir continuer jusqu'à 40 ans. Tout le monde l'aime.
Oui, mais est-ce qu'il peut, quoi? Est-ce qu'il peut? Voilà. Est-ce qu'il a la capacité? Allez. Est-ce qu'il a le bagage?
Allez voter.
Après, c'est vrai que par rapport au débat de Pierre-Ambroise, je ne fais pas le point sur les votes.
Pour l'instant, pour la deuxième
David
place.
David disait hier qu'il voulait le voir dans le top 5 mondial. Donc, c'est que David y croit.
Ah ouais, il a le potentiel.
Oui, pour la deuxième place. Ça va jouer entre Simon Dutin et Pierre-Ambroise Boss. C'est très serré. Simon, pour l'instant, tu es troisième. 14% pour ton Tour de France femme. C'est pour ça qu'on a fait le débat avant, comme
super,
toi,
je vais produire mon accélération dans le dernier virage. C'est pas le point fort de Pierre-Ambroise. Je vais le surprendre dans le dernier virage. Je vais accélérer.
Pierre-Ambroise, il a 17%.
Son coach,
il est loin quand même, Pierre-Ambroise. Faites un petit effort pour sa première contre-attaque.
Ne dis pas que c'est David qui va gagner, non.
Sport mineur, est-ce qu'il faut plus de médiatisation? C'est un super débat. Allez-y, votez pour lui. Moi, j'ai voté pour toi, personnellement.
C'est vrai.
62% pour David Douillet, qui écrase la concurrence, là, pour l'instant, pour son débat sur la mort des clubs de Ligue 1. Prépare-toi, David. Enfile ton kimono, ça va être ton tour.
J'ai pris un 54% par Marion hier, je pouvais pas en rester là.
C'était quoi, la revanche de David.
Exactement.
Évidemment, c'est ça le champion. Allez, rendez-vous à 11h45, vous pouvez aller encore voter en masse et faire changer tout ça pour nos GG contre-attaque. Mais d'abord, cette citation tirée du Guépard. Et oui, évidemment, il faut que tout change pour que rien ne change.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais.
Le centre au ras du sol, Papi. Oh, le plat du pied, elle est touchée. Non, oui, non.
Balboa était un grand champion autrefois, mais cette époque est passée.
La frappe à venir. Non, il est allé chercher Mbappé. Le ballon roulé.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pour la première fois de ma vie, j'ai peur.
Ah, c'est Mbappé qui va sortir.
Et ben voilà, bravo Didier Deschamps.
Il y a une désumination.
Si nous voulons que tout reste pareil, il faut que nous changions tout. J'espère que tu me comprends.
Bellingham qui va le chercher, Kylian Mbappé, la le premier but de Kylian Mbappé avec le Real Madrid
contre l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais affronté.
Kylian Mbappé qui va sortir sous l'ovation des supporters du Real, remplacé par Brahim Diaz.
C'est chapeau. Chapeau melon et bottes de cuivre, on dit. Alors on a fait un petit medley avec chapeau melon et bottes de cuir, mon cher Walid. Le guépard que vous avez entendu pour rendre hommage à Alain Delon, et puis Rocky, la musique évidemment, pour Kylian Mbappé qui a débuté son aventure avec le Real Madrid cette semaine, avec la victoire contre l'Atalanta en Supercoupe d'Europe. Il a déjà marqué avec son nouveau club. Aujourd'hui, il entame son aventure en Liga. Ça se passera à Majorque après une fin de saison compliquée avec le PSG, un euro raté avec les Bleus. Kylian Mbappé ouvre donc cette nouvelle page de sa carrière dans le plus grand club du monde. D'où cette question, les GG. Est-ce qu'il peut devenir encore plus fort à Madrid? Oui ou non? Pierre-Ambroise Boss.
Oui.
David Douillet.
Oui.
Simon Dutin.
Non.
Walid Acherchour.
Oui.
Simon, on compte sur toi. Avant de vous entendre, on va aller à Madrid en direct où on retrouve notre nouveau correspondant pour RMC, Edgar Grollo. Salut Edgar.
Salut François, salut messieurs, salut Edgar. À toutes et à tous.
Salut Edgar. Voilà Edgar, ça y est, tu t'es mis à l'espagnol, t'es bilingue.
Bien sûr.
C'est bon?
Bien sûr.
Ça y est.
Bon, me teste pas en direct non plus.
Là, je risque pas de te tester parce que moi j'ai fait allemand première langue, donc je suis déjà zéro en allemand et zéro en espagnol.
T'as trouvé un appart, Edgar?
Écoute, c'est en cours de.
Fred Hermel l'a mis bien, là, il lui a donné déjà toutes les bonnes adresses.
Hein, bien sûr, bien sûr.
Toutes, sans exception.
Toutes, oui. Bon, il m'en garde, je pense, encore.
Edgar, est-ce qu'il a déjà convaincu, pas toi, mais les supporters et le club madrilène Kylian Mbappé depuis son arrivée?
Déjà, il a convaincu les supporters. Près de 7000 maillots vendus tous les jours. C'est deux fois plus que Cristiano Ronaldo à son arrivée en 2009. Il y avait déjà un drapeau en son honneur en tribune pendant la Super Coupe d'Europe. Tous les supporters n'attendent que lui à la sortie de l'entraînement. Chez les fans madrilènes, c'est déjà la star de l'équipe. Ensuite, il est aussi en train de convaincre ses coéquipiers. Vinicius et Rodrigo ont fait sa célébration avec lui à Varsovie. Bellingham a dit qu'il voyait tous les petits détails qui faisaient de Kylian Mbappé un grand joueur. Et pour l'instant, ça se passe bien dans le vestiaire, comme le confirmait hier encore Carlo Ancelotti.
Nous essayons d'aider tous les nouveaux joueurs à se sentir bien. Et c'est pareil pour Mbappé. C'est évident qu'il a un talent extraordinaire. Il s'intègre au vestiaire très bien, avec humilité. Et son début d'aventure au Real Madrid se passe très bien.
Maintenant, les seuls qui sont toujours un tout petit peu dans la réserve, je dirais, ce sont les médias espagnols. Ils se sont satisfaits évidemment du premier but de Kylian Mbappé au Real Madrid, mais savent qu'il y a forcément encore beaucoup de choses à perfectionner, et Kylian Mbappé l'a dit lui-même. Ce qui est sûr, c'est que Kylian Mbappé pouvait difficilement rêver meilleur début, mais ce qui est sûr aussi, messieurs, c'est qu'à Madrid, l'exigence envers le capitaine de l'équipe de France va monter de semaine en semaine dans la presse et aussi chez les supporters.
Alors, merci Edgar, hein, tu restes avec nous, hein, n'hésite pas à intervenir dans le débat. Je rappelle cette question, est-ce que Mbappé peut devenir encore plus fort à Madrid? 32-16 pour nous rejoindre, il y a un seul nom, c'est Simon. On va commencer par un oui, puisque vous êtes trois. Pierre-Ambroise, tu veux te lancer? Pourquoi tu dis oui, Mbappé peut être encore plus fort?
Bah, parce que c'est le meilleur club du monde, voilà, tout oui. simplement. Donc, non, mais voilà, c'est évident que ça va pas se passer comme ça, comme ça se passait au PSG à l'entraînement, ça j'en suis persuadé. Ouais. Et puis, voilà, Kylian Mbappé, le compétiteur dans l'âme. Donc, si tu veux, lui, il va rapidement devoir se mettre au diapason, en fait, parce que, Dans l'équipe, il y a Vinicius, il y a Bellingham. Là, on parle de joueurs qui sont déjà bien en place. Et au Real Madrid, si tu fais pas tes preuves, et on en a des exemples, hein, Eden Hazard. À l'époque, Gareth Bale. Bon, c'était peut-être pas pour les mêmes raisons, mais dès que t'es un peu moins bien, tu joues plus, hein, au Real. Hein. Ouais. Donc voilà, s'il veut être le joueur qu'il désire, c'est-à-dire le GOAT. Et voilà, il va devoir quand même hausser son niveau. Il y a un petit bout de chemin, on est d'accord. Hein, il faut qu'il fasse attention. Ça passe du Real, carrière.
Mais oui, mais c'est la question. La marge de progression, est-ce qu'elle est si importante que ça pour Mbappé?
Bah, en tout cas, moi, j'ai répondu oui parce que ça doit être l'objectif. Moi, j'ai été très déçu de la saison dernière. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises à l'after. Malgré l'histoire des 40 buts, son euro a été complètement raté. Dans les gros rendez-vous, il a été souvent décevant. Et même dans le jeu, ses buts ont beaucoup masqué le contenu de ses matchs où on le voyait sur une ou deux situations. Mais dans la continuité, je retrouvais pas le vrai Kylian Mbappé qu'on avait pu voir en 2021, notamment. Donc, pour moi, oui, il doit être meilleur au Real Madrid, parce que s'il n'est pas meilleur au Real Madrid, ce sera quand même une grosse déception, surtout qu'en plus, il s'est beaucoup plaint de l'effectif du Paris Saint-Germain. Dans un premier temps, il y avait trop de stars, dans un deuxième temps, il n'y en avait pas assez, et là, aujourd'hui, aujourd'hui, on va dans une équipe du Real Madrid où il y a beaucoup de stars, où il y a de la qualité partout, donc pour moi, Kylian Mbappé n'a pas d'excuses là-dessus, surtout qu'en plus, le Real Madrid a gagné la Ligue des Champions et la Liga l'année dernière sans lui.
Ouais, alors attention, là tu parles effectivement par rapport à la saison dernière, il peut être plus fort, je pense que c'est ce que va dire Simon.
Ah bah c'est ça, moi je dis.
Si c'est être meilleur que la saison dernière,
plus fort au Real Madrid de ce qu'il a été là sur les deux dernières années au Paris Saint-Germain.
Moi j'avais compris que c'était son niveau, son prime.
Est-ce qu'on peut voir un Mbappé plus fort qu'on ne l'a jamais vu? Et moi, à cette question, j'ai tendance, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, à répondre non. Je pense que le prime Mbappé, comme disent les jeunes, on l'a vu, on l'a connu. Pour moi, il était lié à une forme d'innocence, à une forme de désintéressement, de générosité, appelle ça comme tu veux, avant qu'il se dise qu'en fait son destin c'était de devenir le meilleur joueur de l'histoire. Je pense que c'est pas Puskas, c'est pas Di Stefano, c'est pas Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il sera jamais plus grand que le club. Je pense qu'il sera jamais ce joueur dont le club a plus besoin que l'inverse. Je pense qu'il a plus besoin du Real que le Real n'a besoin de lui. Et
encore une fois, les exemples, ils sont nombreux. Et on peut discuter. Mais tu vois, Zidane n'est pas devenu meilleur au Real que ce qu'il avait déjà été. Michael Owen, qui a été un phénomène à une époque, n'a pas réussi au Real. Un David Beckham n'a pas réussi à prendre une dimension supplémentaire. C'est un club qui peut t'écraser parce que, justement, c'est un club auquel, dès que tu arrives, tu dois des comptes. Voilà, t'es en dette avec ce club dès le moment où tu enfiles le maillot. Voilà, Mbappé, il va falloir qu'il délivre. Il a en effet marqué pour son premier match. Il a réussi ses débuts. J'ai été moi aussi, comme disait Edgar, agréablement surpris par le fait que Vinicius et Rodrigo mettent autant d'entrain. T'aurais pu te dire les mecs, ils le regardent un petit peu, tu vois, en chien de faïence. Bon, il va venir manger dans notre frigo. C'est quand même nous les patrons de cette équipe. Tu vois, Bellingham, tu sens qu'ils ont tous envie.
Après, c'est pas dans leur intérêt non plus, Simon.
Je sais bien,
Mais et puis encore une fois, on va attendre un petit peu là-dessus sur la bromance, la bromance des trois. On va attendre quand il va avoir les grosses échéances. Au début, avec Neymar, rappelle-toi, hein, c'était Kalino, thérapie, avait des câlins, etc., des bisous.
C'est pour ça que je pense que, en plus de tout ça, je pense que Mbappé, et ça, là, c'est un avis très personnel, le meilleur Mbappé qui soit, c'est un mec qui ne cherche pas à s'inventer un destin différent que ce que ses qualités le destinaient à être. Pour moi, c'est le meilleur du monde à son poste quand il décide de mettre le bazar sur un côté et de rentrer dans l'axe du jeu, de provoquer, de faire des différences, de faire marquer. Depuis qu'il s'invente un destin à la numéro 9, / numéro 10, parfois numéro 8, organisateur, leader,
tireur de
capitaine, grand frère, tireur de coups francs. Tu sais qu'il y a un compte Twitter, tu sais qu'il dit, le titre c'est « Depuis combien de temps Mbappé n'a pas marqué sur coups francs ?» Et tous les jours, le mec, il te met à jour le... Bon bref... Je pense qu'il s'invente un destin et qui est lié à la confiance qu'il a en lui, en ses qualités, en ce qu'il a déjà prouvé, évidemment. Il rince tout le monde sur tous les terrains de France et du monde désormais depuis qu'il a 5 ans, 6 ans. Donc on peut pas l'empêcher. Mais qui s'invente un destin à la, justement, et surtout un espèce de style de jeu, il nous a suffisamment bassiné en disant, ah, le pivot gang, machin, je veux pas jouer pivot gang. Mais en même temps, si tu regardes à l'épreuve des faits, qu'est-ce qu'il essaye de faire depuis des mois maintenant? Il recule sur le terrain. Il vient demander le ballon. Il vient demander le ballon à l'arrêt au lieu de d'attaquer la profondeur, de jouer sur ses qualités exceptionnelles de vitesse, de profondeur. Et il veut être un organisateur. Il a beaucoup joué avec Neymar. Il s'est dit, moi aussi, je vais faire des louches en profondeur. Moi aussi, je vais faire des passes entre les défenseurs. Moi aussi, je vais être un créateur, un facilitateur. Et je pense... Et ça reste un excellent joueur, entendons-nous bien. Mais je pense que pour être le meilleur du monde, il doit revenir à un petit peu plus de simplicité, d'efficacité. Et c'est en ça que je trouve que Vinicius, à l'inverse, a fait preuve d'une remarquable intelligence et faculté d'adaptation. Parce que Vinicius, à l'image d'un Cristiano Ronaldo, qui était un peu un joueur de cirque à ses débuts, tu sais, à faire le spectacle, des roulettes, machin, et qui n'était pas dans l'efficacité, il a su épurer son jeu. Ouais. C'est-à-dire maintenant, il va droit vers le but. S'il doit la donner, il la donne. S'il doit marquer, il marque. Et je trouve que voilà, Mbappé, il a complexifié à la fois tout son univers, que ce soit la communication, son univers en dehors du terrain, et aussi son jeu. Ouais. Donc, je pense qu'on verra pas Mbappé meilleur que ce qu'on a vu, ce
qu'on a pu voir
sur ses premières saisons à Paris, voire même sur sa dernière saison à Monaco.
David, toi, t'es plutôt confiant sur l'aventure de Mbappé à Madrid.
Je suis dans la même veine que Pierre parce que c'est le meilleur club du monde et je pense que au prix où ils l'ont acheté, au prix où ils le payent, ils vont tout faire
pour. Ils l'ont acheté zéro, hein, David.
Ouais, mais enfin.
Bah, ils le payent cher.
Ah, ils le payent cher, mais ils l'ont acheté zéro.
Cher, Simon, il le paye.
Il y a la prime à la signature, etc. Donc.
Il le paye tous les mois. Ouais.
Il le paye tous les mois.
Voilà, donc. Je pense qu'ils vont. Je suppose qu'ils vont organiser l'équipe par rapport à ce garçon. Ça me semblerait une erreur qu'ils fassent pas autrement.
Ah ouais. Voilà.
Et quand tu organises une équipe par rapport à un individu, ce qu'a essayé de faire le PSG, ça n'a pas forcément hyper fonctionné. Et je pense qu'ils ont les moyens de le faire eux. Eh bien, forcément, tu vas avoir un garçon qui va progresser et qui va prendre un degré supplémentaire de confiance en lui. Moi, il y a un mot que j'ai retenu, c'est que il a dit Ancelotti que il était rentré dans le vestiaire avec humilité. Et ça c'est le maître mot de quelqu'un qui s'est remis en question et qui écoute et qui comprend et qui l'apprend.
Non, pas le choix.
Comment tu vas faire autrement? T'as vu les mecs avec qui ils rentrent dans le vestiaire? Bah, mais pour l'instant, c'est, à mon avis, c'est il va falloir qu'ils demandent un double des clés du frigo à Bellingham et Vinicius.
Ouais, parce que David, quand tu dis qu'ils vont faire l'équipe, vont faire l'équipe pour lui, je suis pas sûr. Hein. Non, Bellingham et Vinicius, ils vont se battre pour le Ballon d'Or là dans un mois et demi. Ils viennent de gagner la Ligue des Champions. Vinicius, c'est le meilleur joueur du monde actuellement de club. Ouais. Je suis pas sûr.
Moi, je dis que ce serait une erreur de faire autrement. Voilà, je vous le dis. Je vous dis pour moi, le plus gros potentiel, c'est Mbappé par rapport à ces deux garçons. C'est tout.
En l'état actuel, non.
C'est lui qui est positionné pour marquer des buts.
C'est pas si bien passé que ça.
Exactement.
Hein. En l'état actuel.
Non, mais parce que je pense qu'à Paris, on lui a donné le trousseau de clés complet.
Bah, voilà. tu veux la même chose au Real, en fait, c'était lui le chef. Tu veux pas la même chose au Real?
Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit que c'est pas lui qui doit avoir le trousseau de clés. Il faut qu'il reste à sa place en tant que joueur, mais que les entraîneurs, les sélectionneurs, les dirigeants organisent autour de lui le jeu. Et je pense que c'est la meilleure solution pour avoir une grande équipe et un grand Mbappé qui progressera dans ces conditions-là.
Après, Carlo Ancelotti, il en a parlé, hein, comment ça va marcher en attaque avec les autres attaquants. Lui, je pense qu'il voit plutôt ça. Lui, son rôle pour lui, j'ai l'impression, c'est plutôt d'essayer de faire en sorte que tous ces bons joueurs en attaque puissent s'exprimer librement. Il a peut-être moins de restrictions, il va peut-être moins donner de restrictions aux joueurs qu'un autre coach. Et il va essayer de donner de la liberté. On l'a vu notamment sur la Super Coupe d'Europe. Kylian Mbappé, il a commencé avant-centre. Mais quand Vinicius veut prendre l'axe, il prend l'axe et Kylian va aller sur le côté gauche. Je pense pas que Ancelotti se dise je vais donner les clés du camion à Kylian Mbappé. Non, lui il veut donner les clés du camion au talon de tous les joueurs en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais c'est les clés du camion, elles lui appartiennent à lui, pas aux joueurs. Et je pense que si il organise bien ça par rapport à Mbappé, qui pour moi a le plus de potentiel par rapport à ses joueurs d'attaque, il aura gagné son pari et Mbappé continuera à progresser, j'en suis certain.
Maintenant, pour revenir très rapidement sur l'histoire de l'humilité, de tout se passe bien, actuellement, etc. On en avait déjà parlé avec Edgar pendant l'after. Moi, je vais attendre un peu parce que oui, l'humilité. Non, mais là, il est obligé.
C'est la lune de miel.
Non, mais il rentre dans une équipe qui a tout gagné l'année dernière. Il est dans un rêve éveillé. Il te dit c'est Disneyland, le Real Madrid, c'est mon rêve depuis que je suis gosse, etc. Attendons un petit peu. C'est-à-dire que je donnais l'exemple tout à l'heure. Alors même si on me dira que le PSG, le Real Madrid, c'est pas la même chose. Très bien, je le concède. Sur la fameuse institution, je mets de gros guillemets, mais attendons les premiers contrats de sponsoring, la publicité, le market, qui est en avant,
le Ballon d'Or d'ailleurs,
l'histoire de Ballon d'Or, comment aussi, le Real Madrid, je sais pas, moi, l'année prochaine il gagne la Ligue des Champions encore, pour qui ils vont faire le lobbying,
le penalty décisif tiré en prolongation,
c'est pas après l'Atalanta où ils ont gagné, ils ont été au-dessus face à une équipe d'Atalanta où il manquait Scamacca, Cope Miners et pas mal de joueurs que je vais m'enflammer là-dessus. Oui, c'est très bien pour l'instant, bravo, tout le monde est content, mais on sait très bien comment ça se passe dans le foot actuel.
Alors Anthony est avec nous au 32-16 pour participer au débat des GG. Salut Anthony.
Bonjour à tous.
Salut Anthony.
Bonjour. Moi je suis d'accord avec David où s'il veut réussir, il faut qu'il soit vraiment humble, qu'il garde la sérénité et en même temps au Paris Saint-Germain, pourquoi il n'a pas réussi? Parce qu'il avait tout le poids. Tout reposer sur lui, comme en équipe de France en ce moment depuis qu'il est capitaine. Et je pense qu'il doit rester à sa place de joueur assez humble, chose qu'il a du mal en ce moment, mais que Ancelotti va le recadrer s'il y a besoin. Et là, il a un entraîneur avec un pouvoir de le recadrer et le club, pas comme au Paris Saint-Germain. Je pense que la différence, ça va se faire de là. S'il ne veut pas l'accepter, je pense qu'il va être en grande difficulté aussi.
C'est vrai qu'elle a donné Ancelotti. D'ailleurs, Jérémy nous dit la même chose aussi sur l'appli RMC Direct Studio. Il va le rendre meilleur, Ancelotti. Que ça soit d'ailleurs en termes de mentalité peut-être, mais aussi en termes de joueur, sur le plan technique. Ça peut aussi être intéressant
pour lui. Moi, je pense sur le plan technique, il est au top. Sur tout ça, là, qu'est-ce qui a manqué? Je pense que c'est la simplicité. Avec l'équipe de France, je pense qu'il a loupé son euro avec ce poids de capitaine, de tout réussir. C'était tout reposé sur lui. Et au Paris Saint-Germain, c'était exactement la même chose. Il a voulu les clés et je pense que c'est là qu'il a été moins bon cette année.
Bah, toute la question, c'est ce qu'on se pose comme question, est-ce qu'il sera capable de rester à sa place? C'est
aussi je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. En fait, je le trouvais vraiment. Anthony, pardon.
Tu peux l'appeler Stéphane.
Ouais, non, mais j'ai pas le casque, c'est pour ça que j'entends moins bien. Ouais, mais t'avais une tête de Stéphane. Ouais. Une voix d'un mec qui s'appelle Stéphane.
Okay.
Ouais, pardonne-moi, Anthony. En fait, moi, je le trouvais vachement dedans physiquement plutôt. Tu vois, j'avais pas l'impression que c'était un poids qui portait, sur ses épaules, mais plus. Voilà, et à mon avis, je sais pas s'il est parti un peu trop en brinque cette année, mais il avait vraiment pas les cannes. Et d'ailleurs, on le sent là en début d'année, il est pas encore non plus dans le coup. Hein. Bon, il y a des appels contre appels, il se passe des choses, mais on sent que c'est pas le 38 km/h d'époque. Quoi.
Mais c'est la grande question qu'on posait avec Simon, c'est est-ce qu'un jour on retrouvera ce Mbappé qui était physiquement au top et qui pouvait faire des différences à lui tout seul.
Moi, je pense parce qu'en fait, il est rempli d'orgueil, Mbappé, donc c'est ça qui lui permettra de revenir à ce niveau-là.
Et justement, pour compléter ce que je disais, peut-être que le contre-argument à ce que je disais, c'est avec la chance d'avoir le Mister Ancelotti qui justement sait mieux que personne gérer, tu sais, des égos comme ça et faire cohabiter tous ces mecs-là, peut-être que ça va obliger, et que Mbappé c'est quand même un gars supérieurement intelligent, donc il est pas bête, il se dit bah je vais pas arriver non plus avec mon tambour et faire le malin, il faut que je respecte un petit peu ce club et les mecs qui ont déjà gagné ici, donc il n'est pas interdit de penser que il va naturellement redescendre d'un étage, baisser un peu le chauffage et se dire bon, je vais d'abord me mettre au service de ces mecs-là. Et s'il se met au service de ces mecs-là, on peut retrouver le Mbappé dont je te parlais, qui est capable de rendre zinzin n'importe qui sur son côté, de repiquer, de terminer les actions, de créer, de rendre
après,
les autres
après
meilleurs.
Après, vous êtes très bien Benzema. Après, pour le coup, sur le terrain, au-delà du hors-terrain que j'évoquais tout à l'heure, je pense que les trois vont se nourrir, même les quatre vont se nourrir. C'est-à-dire que on l'a bien vu avec Bellingham.
Quand on voit la passe D de Bellingham,
et l'appel contre appel, je parlais bien en mode, c'est exceptionnel.
Je pense que même si collectivement ça va être dur de mettre tout ça en place, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de qualités, mais la qualité individuelle, même la complémentarité Vinicius Bellingham ou Bellingham Mbappé, elle peut suffire en Liga par exemple.
Bah, il va être servi,
et il aura énormément de spots là-dessus. Donc moi je pense pas que c'est Kylian Mbappé qui va forcément faire le sale boulot à Vinicius. Je pense que ça va être un travail commun et que chacun sera gagnant au moins sur le terrain dans un premier temps.
Voilà, ben on va remercier Anthony en tout cas. Merci beaucoup d'être passé, Anthony.
Stéphane, non ?
Merci Stéphane.
Ah oui, c'est Stéphane, c'est pour ça qu'il répond pas. Non, merci beaucoup Anthony d'être passé dans les grandes gueules du sport. Il y a Olivier aussi que je cite sur l'appli RMC Direct Studio qui dit d'accord avec David car ce sont les supporters qui décident 7000 maillots par jour. Le Real va tout faire pour qu'il soit le GOAT et le garder plus haut. Voilà un des débats qu'on aura l'occasion de suivre avec toi, Edgar. Merci beaucoup. Ce soir à Mallorca,
merci à vous.
Il sera évidemment titulaire, Mbappé. Pas d'autre solution.
A priori, il sera titulaire. Ouais, mais ouais. Carlo Ancelotti a laissé le mystère. Il a dit peut-être qu'il y aura des changements, peut-être qu'il n'y en aura pas. Mais
le mystère a laissé le mystère. Il va se tourner, hein, il ne sera pas tout le temps, je pense. Pas,
titulaire. Ah, tu penses qu'il ne sera pas titulaire tout le temps?
Pas tout le temps, non.
Alors, pas pour les petits matchs quand tu auras la Ligue des Champions.
Il y a 72 matchs dans la saison, donc il y en aura forcément.
Fait, en fait, mais il faut qu'il va faire. Qu'il fasse quand même
il
tourner.
Il ne fait pas tourner tout le temps non plus, Carlo. Hein. Il s'adapte. Enfin, bon, on verra. Merci, Edgar, en tout cas.
Merci à vous, messieurs.
Bonne soirée à Madrid. Dans un instant, on revient dans les grandes gueules du sport avec le débat caché. Et oui, puisque vous le savez, ils doivent débattre sur une actualité qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est toujours passionnant. Et puis les GG contre-attaque, on fait le point sur les votes. Dans un instant, vous pouvez encore voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Restez avec nous, on revient tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Il est 11h30 sur RMC, vous écoutez les grandes gueules du sport depuis 9h ce matin. Et rappelez-vous, pour la saison à venir, c'est 9h désormais, les grandes gueules du sport jusqu'à midi avec Simon Dutin, Pierre-Ambroise Boss, Walid Acherchour, David Douillet en pleine forme. Depuis ce matin, dans 15 minutes, les GG vont contre-attaquer. Elles vous ont proposé toutes les quatre un débat. C'est vous qui choisissez. Vous avez encore un quart d'heure pour aller voter sur le compte X des grandes gueules du sport. Et pour l'instant, Walid, il est toujours dans les choux. Hein, voilà, avec son débat sur mon fils. Allez voter pour Walid. Toujours troisième, Simon Dutin, avec le débat sur le Tour de France femme.
Combien ça grimpe, non?
Non, ça grimpe pas trop. Toujours, non, t'es à 14.
Oula!
C'est derrière, derrière Pierre-Ambroise, qui lui est à 17. Ah oui, avec ses sports mineurs des JO, est-ce qu'il faut plus les médiatiser? Mais les gens veulent entendre parler David Douillet, c'est comme ça. Voilà, ils veulent l'entendre sur la mort des clubs de Ligue 1, la baisse des droits télé. Je pense que ça passionne les gens, effectivement, depuis le.
Ils veulent parler de foot.
Ils veulent parler d'argent.
Argent,
et foot.
Argent et foot.
C'est pareil. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Et après, ce qui est marrant, ce que tu dis, Pierre-Ambroise. C'est conditionné par l'argent. Non,
ce qui est marrant, Pierre-Ambroise, ce que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup de messages pour nous dire ouais, vous parlez trop de foot dans les grandes gueules du sport, etc. Donc que tout le monde vote pour le débat.
De toute façon, si David il nous fourgue son débat toutes les semaines, toute l'année, il va finir par
gagner. Là, je crois qu'il est bien parti. Là, il est bien parti pour lancer le débat dans 15 minutes. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Ah oui, c'est comme ça le débat caché, Pierre-Ambroise. C'est un peu surprenant. Les GG ne savent rien. Le guet-apens du jour.
Intrigant.
Mais oui, il va falloir débattre sans rien savoir. Ça donne toujours des grands moments. Le guet-apens du jour, c'est ça.
Vingegaard, Vingegaard qui s'envole et désormais dans la montée. Est-ce que Pogacar va pouvoir réagir? Non, ils ne réagissent pas. Il ne réagit pas. Regardez Pogacar, il laisse Vingegaard s'envoler.
C'est parti pour Vingegaard. Pogacar dans la roue qui va être un petit peu court. Vingegaard est en tête. C'est Vingegaard qui prend les 8 secondes. Vingegaard qui avait démarré. Pogacar qui va placer un compte. Pogacar qui place un compte pour aller partir dans la descente en premier. Pogacar qui passe la ligne, qui lève les bras après la ligne et qui gagne cette étape ici à Valois. Ça y est, c'est parti. Il place son accélération. Vingegaard, il emmène gros. Et Pogacar qui est lui. Et est en train de revenir. Une redresse, il pourra pas Pogacar. Il se relance, il va réussir. Oh, Vingegaard est en fort. Il ne veut pas jouer dans l'attente et il met un gros coup à Jonas Vingegaard. Un uppercut.
Oui, il a du mal à finir, Vingegaard.
Il a beaucoup de mal à finir, Jonas Vingegaard. Il est en souffrance.
J'ai vu le sourire de Walid Acherchour et il est pas bien, il transpire. La Vuelta a débuté ce week-end sans Pogacar, sans Vingegaard, sans Evenepoel, le trio du dernier Tour de France qui n'est pas là. Et il laisse donc la lumière, ce grand tour en Espagne, au Roglic, au Yates, au Almeida, au Sepkus. Est-ce que la Vuelta a de l'intérêt en l'absence des cadors du vélo? Oui ou non? Simon Dutin.
Oui, mais moins.
David Douillet.
Oui, bien sûr.
Walid Acherchour.
Non.
Pierre. Pardon, je
les Pierre Ambroise toujours Boss. Tard. Les absents toujours tard. Oui. Ça reste un événement sportif.
Walid, tu dis non, ça n'a pas d'intérêt.
Enfin, intérêt, c'est...
Non, mais tu as le droit de le dire.
Oui. Je...
Pourquoi? Parce que toi, tu attends de voir Pogacar, Vingegaard, Evenepoel.
Non,
je suis d'accord avec toi.
Parce que moi, je suis pas un grand fan de cyclisme, mais je regarde avec intérêt le Tour de France. Et je n'ai pas le temps ni la chance de regarder beaucoup de tours et... Et si les stars du Tour de France ne sont pas là, je trouve qu'il y a moins d'intérêt. Mmh.
David, toi tu dis oui.
Oui, je dis oui, parce qu'il reste encore d'immenses talents, même si... Alors, la vraie question qu'on devrait se poser,
vas-y.
On parle de troisième grand tour, est-ce que la Vuelta peut être qualifiée de grand tour encore, quand il manque les ténors de la discipline, Pogacar, Vingegaard et Evenepoel. Malgré tout, il y a encore du bon monde, hein, avec Primoz Roglic qui a déjà gagné, je crois, deux ou trois fois la Vuelta, même s'il a chuté sur le tour, il est là. Seb Kuss, Carapaz qui a fait deux en 2020, Eric Mas, O'Connor. Il y a aussi, il faut regarder de près, Adam Yates et Almeida qui sont les coéquipiers de Pogacar. Et ces deux-là ont beaucoup de talent, ils l'ont prouvé pendant le Tour de France. Sans le patron, ils sont capables eux-mêmes de s'exprimer de manière individuelle, d'une manière très très brillante. Donc il y a une grosse concurrence à l'intérieur de ce tour. Il y a tous les ingrédients pour que on ait de belles batailles. Malgré tout, ce sont des batailles sans les grands tauliers. Alors voilà, c'est ce qui manque à cette Vuelta. Voilà, c'est est-ce que la Vuelta est un grand tour ou pas? Ben quand il manque les trois meilleurs, je suis pas sûr.
Simon.
Moi, je comprends que les gens qui s'intéressent pas beaucoup déjà au cyclisme ne s'intéressent pas du tout à cette Vuelta.
Et ça va pas aider.
Je vais pas cacher que je suis un peu moins excité par le début de cette Vuelta que je ne l'ai été. Alors je te parle évidemment pas du Tour de France, mais par exemple par le dernier Tour d'Italie, notamment parce que il y avait Pogacar au départ du dernier
Pogacar,
Tour d'Italie.
Il gagne tout en Tour d'Italie. Il y a plus de suspense. Là au moins il y a du suspense. Ouais, mais sauf que c'est pas qui va gagner.
Avant le Tour d'Italie, il est avant le Tour de France. Avant le Tour d'Italie, tu sais pas que Pogacar va gagner d'une part aussi facilement et même gagner tout court. Non. Et ensuite, le Tour de France doublé, qui n'a été fait que 9 fois dans l'histoire. Là, forcément, t'enlèves les 3 fantastiques, qui, pour des raisons diverses, ont des bonnes raisons quand même de pas s'aligner. Donc oui, forcément. Après, quand t'aimes le vélo, il reste des motifs d'intérêt à cette course. Roglic qui peut égaler Roberto Heras en devenant le deuxième coureur à remporter 4 fois, ce qui reste malgré tout un des 3 grands tours. Et puis, en effet, ce qu'on appelle dans ce jargon les lieutenants, tu vois, les porte-flingues, les grégarios d'habitude, tu vois, qui ont une occasion de briller. Tu vois, Sepp Kuss, l'américain qui a gagné l'an dernier. Bon, la Jumbo à l'époque, comme on l'appelait, avait fait le triplé. Bon, t'as envie de le revoir. On l'a pas vu sur le tour. Il était forfait. Il y a Almeida, justement, un des plus grands talents qui jusqu'ici équipier de Pogacar. Bon, t'as envie de voir ces mecs-là dans ses rôles de leader, mais naturellement, et en plus, il arrive au
mais
niveau...
Mais David a raison, ça fait pas du bien forcément la Vuelta.
Mais au niveau alors, du chrono.
Eh ouais, le problème de la Vuelta, c'est
qu'ils arrivent... Tu veux qu'ils comment
le Tour d'Espagne arrive après le Tour de France.
Bah, c'est ce que je t'allais dire, c'est que bah, pour des questions de calendrier, ils arrivent après le Giro, qui, les autres années quand même, faisait encore moins l'événement que la Vuelta. Là, le Giro, on en a beaucoup parlé parce que Pogacar, justement, a remis la lumière sur le Giro. En tout cas, c'est la façon dont moi je l'ai ressenti. Mais t'as Giro avec Pogacar, Tour de France avec Pogacar, Vingegaard, machin, de retour, et Pogacar qui écrase tout le monde. Et derrière, t'as les Jeux Olympiques avec une course légendaire dans les rues de Paris dont on parlait hier, et Evenepoel qui fait un doublé historique. Donc, forcément, même les amoureux de bicyclette, ils arrivent, bon, ils ont eu leur... Ils sont rassasiés, quoi. Ils ont mangé à leur faim. Donc, bon, la Vuelta, à moins qu'il se passe un truc exceptionnel. Et les autres années, justement, il y a eu Evenepoel qui s'est révélé parce que son patron de la Soudal ne voulait pas qu'il aille sur le tour. Et donc,
Pogacar aussi, à l'époque, s'était révélé à la Vuelta. Voilà, il y a des jeunes coureurs qui peuvent se révéler.
Un jour, quand même, tu peux avoir la garantie que, et pourquoi pas dès l'an prochain, Pogacar, après avoir fait Giro Tour, il va se dire, est-ce que Tour et Vuelta...
Bah, le triplé. Tout le monde imaginait faire le triplé cette année. Giro, Tour de France,
Le triplé en l'état actuel de la saison du calendrier, j'y crois pas. Mais en revanche, Tour de France et Vuelta, ça me paraît envisageable. En tout cas, il doit l'avoir dans un coin de sa tête.
Ouais. Après, faut regarder dans le détail. T'as un autre angle qui peut rendre intéressant cette Vuelta, très intéressant. C'est le terrain de jeu qui est pas du tout le même que celui du Tour, où tu vois, t'auras plus de par rapport au parcours. T'auras moins de d'étapes un peu lourdes où t'attends les sprinteurs à l'arrivée. Là, ça laisse beaucoup plus d'ouverture, la qualité du parcours sur des échappées, des baroudeurs. Il y a plus de marge de manœuvre en fait, je trouve. Et donc ça rend les étapes un peu plus sexy, un peu plus attrayantes, tu vois.
T'as totalement raison. Il y a 9 arrivées au sommet, 8 étapes répertoriées comme des étapes de montagne, 5 de moyenne montagne, 5 autres étapes accidentés, donc pour des baroudeurs. Il y a une seule étape pour les sprinteurs, donc on va pas faire comme
c'est
le Tour de
aujourd'hui
France
d'ailleurs, je crois, non,
avec des étapes comme ça un peu ennuyantes, il faut le dire, quand on est devant la télé. Un total de dénivelé positif de 61 000 mètres, c'est plus que le Tour de France, c'est beaucoup plus que le Giro. Donc finalement, le parcours proposé est vraiment sympa.
Oui. Ils sont obligés de présenter la course.
C'est très dur.
T'es hypé, comme on dit.
Bah non, pas trop, évidemment. Non, c'est sûr. En fait, je fais partie des gens qui regardent le Tour de France pour la hype, justement, Vingegaard, Pogacar, depuis quelques années. Donc, j'ai répondu, en plus, la mauvaise réponse, presque. Oui. Parce que faites ce que je dis, pas ce que je fais.
T'as dit qu'il y avait de l'intérêt,
il y a de l'intérêt pour les puristes. Il y a de l'intérêt pour les puristes, parce que, les amoureux du vélo, ils vont regarder tout le temps ce qui se passe, parce que ils veulent savoir la forme, et puis ça leur fait du bien de regarder des étapes.
Après, les amoureux du vélo, ils adorent voir le duel Pogacar-Vingegaard, faut pas se mentir. Il y a toujours ceux qui disent, moi j'aime le vélo, j'aime Sepp Kuss et Adam Yates, mais...
Ouais, mais là, tu verras du Yates.
Ouais, je suis d'accord, David, mais bon, voilà.
je suis bien placé. Je suis bien placé pour savoir que les voilà, il y avait un mec qui s'appelait Usain Bolt. Il remplissait des stades quand il était pas là. Le stade de France était pas vide, mais il perdait énormément d'audience, quoi.
Donc, tu vas mettre sur un débat justement. Est-ce qu'il faut, par exemple, que il n'y a pas forcément de concurrence, parce que là, sur le plateau de la Vuelta, on peut se dire, bah, on ne sait pas qui va gagner, c'est passionnant, on va avoir une vraie course, contrairement au Giro où, par exemple, Pogacar a tout écrasé, contrairement à Usain Bolt quand il écrasait tout le monde. Est-ce qu'il faut, pour rendre l'intérêt à une compétition, qu'il y ait de la concurrence, ou est-ce qu'un mec qui écrase tout, finalement, bah, ça peut suffire?
Ça voilà. Suffit, mais c'est factuel.
Moi, je regardais, quand j'étais petit, on regardait... Bon, après, on a compris, mais on regardait Lance Armstrong et et moi, je...
Ah, tu te passionnais pour le Tour de France de Lance Armstrong?
Ah, mais moi, quand j'étais petit...
C'était insupportable.
Non, quand j'étais petit, moi, je voulais attendre le train US Postal quand ils allaient déposer...
Tout le monde avait envie de le voir.
Ils allaient déposer qui, quand, comment...
T'attendais le moment où il allait lâcher tout le monde.
Les passages d'Incapi, etc. Moi, j'étais petit. Je devais avoir 11, 12, 13 ans. J'attendais ça. Même si je savais c'était quoi la fin. Comment Ulrich allait se faire écraser. Ivan Basso et tout, etc. Alors que je savais... Je connaissais l'issue, tu vois.
Ah ouais,
Usain Bolt, j'ai pas loupé une course.
On aime les super-héros, je pense. Quoi.
Ouais, j'aime. Ouais.
Oui, mais le cyclisme est différent quand même. Usain Bolt, il est tout seul dans son couloir et puis il a besoin de personne pour gagner. Tandis qu'un Pogacar ou un Vingegaard, tout seul sur le tour, ils peuvent pas gagner. Ils ont besoin d'équipiers de qualité, de grande qualité, qui démontrent des potentiels de coureurs, de coursiers énormes. Et ceux-là, tu les retrouves sur la Vuelta, tu vois.
Ah oui, bien sûr. Après, pour Pogacar, on commence à en douter. Il pourrait presque faire le tour tout seul.
Non, c'est impossible. Il est obligé d'être tiré par ses... Non,
il avait une super équipe, en plus, cette année.
Jusqu'au bout, voilà. Tu peux pas gagner un tour tout seul. C'est impossible. Si t'as pas une grosse équipe autour de toi... D'ailleurs, Pogacar a perdu des tours avant, sous l'ère Vingegaard, à cause de ça, parce qu'il avait des équipiers qui étaient peut-être pas forcément du même niveau. Donc c'est différent. Quand on connaît bien les finesses du cyclisme, je trouve que cette Vuelta est intéressante, parce que ces mêmes équipiers là, qui ne sont qu'équipiers sur le Tour, deviennent et peuvent devenir des grands leaders sur cette Vuelta. Malgré tout, les meilleurs sont pas là. Et moi, je suis désolé de ça.
En revanche, François, c'est un débat que tu peux avoir dans toutes les disciplines, tous les sports de haut niveau. Tu sais que moi, j'aime beaucoup le golf. C'est un sport particulièrement dans lequel se pose la question. Pendant très longtemps, Tiger Woods a exercé une domination. Il gagnait en gros un tournoi sur deux. Et je fais partie de ceux qui se réjouissent du fait qu'il y ait plus un mec qui vampirise autant les trophées que ça, que la concurrence soit ouverte. Il y a plein de gens qui te disent, moi depuis que Tiger joue en bas des classements, je m'y intéresse moins parce que, comme dit Walid, il y a des gens qui allument leur télé parce qu'ils veulent voir top dog, la star, le cash
le patron d'exemple de
les gens adorent les extraterrestres.
De la F1 aussi, Verstappen, ça a rendu quand même le championnat de F1, cette ultra domination beaucoup moins intéressante que quand il y avait un duel avec Hamilton.
Il se fait mordre les mollets là.
Ça rend un peu plus intéressant.
Tous les sports en fait sont différents.
Ouais.
C'est différent. Je pense la pression elle est différente parce que là on parle du tennis, mais le tennis chacun s'est nourri. Federer, Nadal, Djokovic.
Quand on a 2-3, justement, on se tire la bourre.
Voilà. Et tout à l'heure Pogacar. Quand on suit le cyclisme, l'histoire qu'on nous vend, c'est Pogacar face à Vingegaard. C'est pas Pogacar tout seul. À la fin, c'est Pogacar qui gagne. Ouais. Mais on a quoi qu'il arrive quelque chose.
Tout à fait,
t'as quelque chose à raconter. Ouais.
Samuel est avec nous au 32-16 à 11h44 en direct. Salut Samuel.
Salut les gars, ça va?
Ça va, et toi?
Alors je voulais intervenir parce que justement je ne suis pas du tout d'accord avec vous tous.
D'accord.
Regardez, donc sur le Giro, on attendait Pogacar, donc on l'a eu, sans concurrence. Ensuite, la bataille à 3 sur le Tour de France avec Evenepoel, Vingegaard et Pogacar, on l'a eu. Et maintenant, sur la Vuelta, ce qui va être intéressant, c'est justement de voir et tout ce qui se passe de l'ordre de ces trois-là. Parce qu'en fait, le vélo ne se limite pas à ces trois gars. Allez, on peut rajouter Van Der Poel ou Mats Pedersen aussi, et Van Aert qui brille au printemps sur les autres classiques. Mais là, justement, on va voir, par exemple, Mikel Landa, qui aurait pu très bien gagner des grands tours il y a 5-6 ans. On va voir Adam Yates, Almeida. Voilà, c'est quelque chose qui va être super intéressant à suivre. Et puis en plus, ces gars-là sont, on va dire, sur un certain même piédestal. Donc on va avoir encore plus, je pense, de concurrence. beaucoup plus de batailles, étant donné que c'est David qui a dit tout à l'heure, c'est un parcours qui est très très vallonné, voire montagnard. On a quasiment plus d'une dizaine d'étapes qui va avoir du dénivelé positif. Donc voilà, pour moi, je trouve même. Après, je suis beaucoup vu.
Et oui, c'est moi, ça. Et voilà, Samuel, c'est ce que j'allais te dire, c'est un argumentaire de quelqu'un qui est passionné de cyclisme.
Évidemment.
Et évidemment que tous les passionnés de cyclisme, ils trouvent forcément des raisons d'allumer leur télé, de se dire bah tiens, j'ai envie de voir ce que va donner Roglic.
Mais je pense que les patrons de la Vuelta, voilà, ils sont un peu dégoûtés.
Ah bah c'est sûr et certain. Et je peux te signer d'ores et déjà que les audiences chez ceux qui diffusent les trois grands tours, elles seront moins bonnes pour la Vuelta qu'elles ne l'ont été pour le Tour, évidemment, et même pour le Giro, c'est une certitude.
Mais je trouve ça dommage parce que je pense que ça aurait donné de très belles images, voilà, justement, de ne pas avoir une répétition sans cesse, parce que les images de Pogacar levant les bras, de Vingegaard levant les bras, on les voit très très trop régulièrement même, et j'ai peur après, même pour le vélo, qu'il y ait une sorte de lassitude qui potentiellement vienne s'installer, même si je pense qu'après des performances de haut vol comme on en voit sur le Tour de France ou sur le Giro, bien sûr, ça fait une énorme publicité pour le vélo, mais je pense que si on voit toujours la même chose, ça peut aussi bien lasser le grand public, je pense.
D'accord, Samuel. Bah après, il y a des grands duels dans l'histoire et
il y a trop c'est de contre-exemples ça aussi qui a avec marqué le tennis notamment. Il y a l'histoire. Les gens n'ont pas marre de Djokovic, de Nadal.
Ah, c'est vrai. Bon, c'est un vaste débat d'ailleurs qu'on aura sans doute régulièrement dans les grandes gueules du sport cette saison et les prochaines années. Merci beaucoup Samuel en tout cas d'être passé.
Merci
pour ton analyse et régale-toi avec la Vuelta que l'on suit sur RMC. Hein. Donc voilà, on ne rate rien des étapes de la Vuelta encore aujourd'hui avec Yoann Bredov qui sera aux commentaires. On revient dans un instant, 11h46 sur RMC pour la dernière ligne droite, la spécialité de Pierre-Ambroise Boss. C'est là qu'il fait la différence. Je ne sais pas s'il va la faire.
Dans le virage, il n'a pas été inoubliable. Ouais. Mais là, la ligne droite, c'est pour lui.
Les GG contre-attaque, c'est tout de suite. Walk. Qui a remporté ces GG contre-attaque? Eh bien, la réponse dans moins d'une minute. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC. Jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
Walid Acher sur Pierre-Ambroise Boss, David Douillet, Simon Dutin vous accompagne depuis 9h jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport à retrouver en podcast dès maintenant sur l'appli RMC avec un Pierre-Ambroise Boss au top pour sa presque première, on va dire, hein, Pierre-Ambroise, parce que tu es déjà.
Ouais, 17%, ouais, je suis pas très content.
T'es déjà venu dans l'émission.
Dingo, non, ouais.
Bah, on va faire le point tout de suite, allez, sur les GG contre-attaque.
RMC. Les GG contre-attaque.
Eh oui, vous le savez, 4 propositions de débat pour nos GG sur le compte X des grandes gueules du sport. 4e et dernier, ça n'a pas bougé malheureusement. Malgré l'appel aux amis, à la famille, Walid Acherchour, tu restes à 7%, mon fils, jusqu'à 40 ans. Tu pourras peut-être le recycler.
Ouais, j'ai testé.
T'as testé, t'as tenté un truc.
Ouais, j'ai tenté un truc.
T'as fait une Simon Dutin, ce qu'on appelle une Simon Dutin, c'est-à-dire que tu savais que t'allais dans le mur, tu l'as fait juste pour pas bosser.
Pas du tout, non. Pas du tout, je l'ai beaucoup bossé pour moi.
14% Simon Dutin.
On salue Gaël, mon fils.
Avec son débat sur le Tour de France femme, t'as pas vraiment convaincu.
Ouais, je visais juste sous les 10%.
Yes. 14%.
Écoute, pas mal. 14%,
c'est pas mal. Troisième. Deuxième, Pierre-Ambroise Boss, c'est pas mal, il s'est bien battu, 17%. Les sports mineurs aux Jeux de Paris, est-ce que ça ouvre une porte justement médiatique à ces sports mineurs? Moi, j'aurais bien aimé t'entendre là-dessus, mais bon, tu reviendras, tu pourras le reproposer. L'avantage, c'est que tu peux le reproposer à peu près tout le temps, ce débat-là.
Même dans 4 ans, surtout.
Ah, voilà, tu reviendras avant. Et puis, le grand vainqueur, il est là, David Douillet, 62%, écrasant.
Bravo, David
Douillet,
ça a fini par passer, voilà. Tu vois. Ah ouais. Voilà, on a eu raison d'insister, bravo.
Comme à ses plus belles époques là, quand il écrasait les autres sur le tatami, 62%. Ouais, sur la baisse des droits télé, est-ce que c'est le début de la chute du football français et puis même de la, on peut le dire, hein, du président de la Ligue, Vincent Labrune, qui est en position pour être réélu? On t'écoute, David, sur ce débat.
D'ailleurs, je vais enchaîner avec directement sur l'élection du président. Les présidents de L2 demandent à ce que cette élection soit différée. Voilà, pour voir véritablement ce qui va, la manière dont ils vont être traités. Parce que quand on parle des droits télé du foot, de la Ligue 1, il faut aussi englober la Ligue 2. Voilà. C'est un tout. Aujourd'hui, ces droits viennent d'être négociés sur le fil du rasoir ces derniers jours. On a capté, enfin la Ligue a capté, après de nombreuses négociations, en cumulé entre Dyson et Bein, 500 millions d'euros. Mais attention, c'est pas 500 millions d'euros qui vont directement dans sur les comptes de la Ligue et qui vont être redistribués directement au club derrière, ventilés pour qu'ils puissent vivre, pour qu'ils puissent acheter des joueurs, pour qu'ils puissent bonifier un championnat, pour que amener des téléspectateurs devant leur télévision, augmenter l'attrait de ce championnat, etc., etc. Il y aura tout d'abord l'accord avec CVC, le fonds d'investissement entre la Ligue professionnelle de football et qui va prélever 20% de cette marge. C'est-à-dire que on peut déjà d'ores et déjà enlever 100 millions d'euros sur ces 500 millions. Ensuite, va passer la taxe Buffet, les 5%. Donc c'est environ 25 millions, ça va être reventilé sur les sports les autres sports, c'est fait partie de la loi française. Auquel s'ajoute aussi une subvention qui va être versée à la FFF d'environ 12, 13, 14 millions d'euros. Et ça, c'est aussi des accords qui sont prédéfinis auparavant. Qu'est-ce qui reste ? Ben, il va rester 300 à 350 millions à redistribuer sur tous les clubs. Voilà. En Ligue 2, on présage 60% de baisse. Voilà, on est dans une situation catastrophique. Les derniers chiffres qui corroboraient ce que je viens de vous dire datent d'il y a 20 ans. On est revenu, en réalité, à une économie qui correspondait à 2004-2005. Vous vous rendez compte, on a fait un saut dans le temps en arrière de 20 ans en termes de montant des droits. C'est une catastrophe absolue. Je ne sais pas. Il y a des clubs qui vont avoir d'énormes problèmes. Je sais de mémoire que la dette cumulée des clubs français, c'est de l'ordre de 270 millions d'euros. Voilà, il y a des clubs endettés, il y a des clubs qui ne peuvent pas recruter, il y a des clubs qui ne pourront pas clôturer leur budget, il y a des clubs qui vont passer devant la DNCG à cause de ça, qui est l'agence de régulation du financement des clubs. Donc comment un président peut rester en place après cet échec, il faut qualifier ça d'échec, c'est réellement un échec. Et puis, cerise sur le gâteau, on a des téléspectateurs qui vont être obligés, et Marion, c'était le thème de Marion, elle a bien eu raison d'évoquer ça hier, en cumulé, s'ils veulent voir les choses sur DAZN et beIN, 50 euros par mois pour voir un championnat dans lequel il n'y a plus de stars et qui risque d'être un petit peu dénaturé. Donc, si on coupe ce fil qui relie environ un tiers des aficionados du monde de foot sur ce problème financier, vous vous rendez compte, on désamorce une pompe d'attrait à la L1. C'est une chute annoncée en réalité.
Ouais. Qui veut réagir au débat lancé par David? Après, c'est peut-être aussi
l'occasion. Et je ne parle pas des droits étrangers, hein.
De se réinventer.
Je parle pas des droits étrangers où là aussi ils sont en baisse.
Pour notre Ligue 1, c'est peut-être le moment de se réinventer.
On en a beaucoup parlé cet été dans l'after. C'est vrai que la gestion des droits TV a été très très compliquée et que les conséquences vont être terribles pour beaucoup de clubs.
Elle est catastrophique.
Pour beaucoup de clubs de Ligue 1 ou entre. Les clubs européens qui vont aller en Europe et donc qui vont récupérer quand même les droits TV européens, oui. pas mal de choses, et ceux qui ne seront pas en Europe, il y aura un décalage et un gouffre qui va s'installer. Moi, je suis bien Le Havre par exemple, qui n'est pas capable aujourd'hui d'inscrire un joueur par rapport à sa grille, par rapport à sa masse salariale. Ils sont obligés de vendre 15 millions d'euros, mais le problème c'est qu'aujourd'hui les clubs étrangers, ils savent très très bien que ces clubs-là sont à la gorge, donc ils attendent le dernier jour pour donner des prix à la baisse, et donc derrière ils sont en grande difficulté, ils ne peuvent pas faire leur mercato, donc ça ne bouge pas, ils ne peuvent pas vendre leurs joueurs, ils
sont suivis. C'est le constat, donc on va dans le mur.
C'est très compliqué. Montpellier la même chose, mais bon, quand tu vois les réactions du président montpelliérain
qui a défendu Vincent Labrune,
il y a des choses qui sont incohérentes. Donc David a raison, il y a beaucoup de clubs qui vont être en grande difficulté. Après avoir dit ça, tu as raison, il faut parler du fait qu'à un moment donné, il va falloir se réinventer, avoir des idées, mieux travailler, parce que c'est vrai que c'est une catastrophe, mais on a eu de l'argent. Nos clubs ont eu beaucoup d'argent. Il y a des clubs qui ont mal bossé avec de l'argent. Peut-être que... Peut-être que ça peut être un mal pour un bien pour certains clubs de revoir un peu à la baisse et d'avoir un peu plus d'idées et de cohérence dans leur travail.
On en revient à ce qu'on disait hier. Moi, je veux bien qu'on se la raconte de toutes les façons, dans tous les sens, l'histoire. On a eu les yeux plus gros que le ventre et même si QSI a fait du bien à Paris, a offert à notre championnat une locomotive, ce que tu veux, une vitrine, tout ce que tu veux, ça ne suffira pas. Et même si entre-temps le PSG avait réussi à gagner au moins une fois la Ligue des Champions, ça ne suffira pas. Tu le prends dans tous les sens. On est derrière l'Angleterre, on est derrière l'Espagne, on est derrière l'Allemagne désormais, oui. Même
et
si
le
on
but,
a été au coup de la coude
plus bas encore.
Et on a été derrière. Exactement. Je vais te dire. Et tant qu'on sera, tu sais, il y en a qui disent ouais, on est cinquième, mais non, on vaut mieux que ça. Mais si vous voulez, mais on n'en a pas la même vision. Et bientôt, en effet, on risque de passer derrière le Portugal, les Pays-Bas, voire la Belgique ou la Suisse. Donc, Walid a raison de dire, on a fait n'importe quoi. Il y a eu des salaires exorbitants qui ont été donnés à des joueurs très moyens. On a voulu se faire croire. Et encore une fois, les présidents, peut-être qu'ils sont pas tous responsables, mais il y en a énormément qui sont comptables de ça. Qui a choisi de faire confiance à quelqu'un qui a réussi à se faire croire? Tu sais, c'est le corbeau et le renard.
Et là, on parle des droits TV, mais il y a CVC aussi.
Mais attends, mais oui, d'accord, mais qui a fait qui a promis le miroir aux alouettes? C'est le corbeau et le renard.
Après, ils
ont été flattés.
Aussi les présidents,
votre championnat,
hein,
votre championnat, il vaut 1 milliard d'euros. Ah ouais, c'est vrai, il vaut 1 milliard. Bon, si t'arrives à te faire croire ça et que t'es content avec ça et que tu distribues de l'argent en te disant qu'un jour tes droits, tu vas les vendre à 1 milliard, t'es comptable de cette situation, tu peux t'en prendre quatre.
Alors
même.
Ça tombe bien, Pierre-Ambroise Boss, il veut pas parler d'argent, donc tu n'auras pas ton mot à dire sur ce débat. Merci beaucoup. c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup en tout cas, Pierre-Ambroise,
merci à vous
d'être venu. Et puis cool. Tu reviendras, hein, je pense, dans ces grandes fêtes du sport. Tu as été parfait.
Ah bah oui, il y a intérêt qu'il revienne.
Bah oui, il va revenir. Il a été parfait, comme toi, David. Merci beaucoup, David. Bon week-end à toi. Walid,
merci
à bientôt aussi.
Merci
sur l'antenne de RMC. Simon, on se retrouve à 13h.
À tout
avec
à l'heure.
Christian Prudhomme, invité.
Salut tout le monde.
Restez avec nous. Les GG qui reviennent samedi prochain dès 9h sur RMC. 9h hein, en direct, tout de suite. C'est l'heure des paris RMC. On va parler foot avec la Dream Team, avec les meilleures cotes, notamment sur les matchs de Ligue 1 de cet après-midi. Restez avec nous. On arrive tout de suite.